Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Vous l'avez remarqué, Hashtag 2050 débarque pour cette saison 2017-2018 avec un nouveau générique. J'avais envie, en introduction du podcast, d'avoir un univers qui me ressemble encore un peu plus. Et donc j'ai choisi une artiste qui s'appelle Kate Tempest, que j'adore. C'est les quelques secondes là, de musique que vous entendez au tout début, et le morceau s'appelle Perfect Coffee, ce qui me ressemble beaucoup. Le café, j'en bois beaucoup, et trop d'ailleurs. Cette semaine, mon invité est Jean Massier. Ensemble, on va parler de politique. Alors, je suis ravie parce que la politique, je trouve ça hyper important forcément et intéressant. J'ai bossé 15 ans dans des collectivités, donc j'ai beaucoup travaillé aux côtés d'élus. J'ai pu voir l'envers du décor au niveau local de ce que c'était la politique, le temps de la politique, la prise de décision politique. Donc pour moi, c'était une très belle conversation, un très bel épisode. Donc j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Le futur commence ici et maintenant.
Salut Jean.
Salut. Ça va Rebecca?
Ouais, très très bien. Je suis ravie de te revoir.
Mais ouais.
Depuis un an.
Mais ça me fait plaisir.
La dernière fois qu'on s'était vu, on parlait d'un nouveau contrat social pour le 21e ouais. siècle. Ça fait pleinement sens avec le thème dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'en parler, j'aimerais que tu nous parles d'Acropolis.
Acropolis, c'est la chaîne que je dirige. c'est une chaîne de streaming. C'est la première chaîne de streaming citoyenne de France qui propose de commenter en direct la politique pour la rendre plus accessible, notamment aux jeunes. Et donc, on commente les débats parlementaires comme si c'était des matchs de foot.
Ouais. Alors, d'où ça t'est venu cette idée? Parce que c'est un peu dingue.
C'est complètement dingue. le faites pas, faut pas le faire. Non, c'est complètement dingue. Je me suis inspiré des commentateurs de jeux vidéo. Car à titre personnel, je regarde beaucoup et je consomme beaucoup, etc. Et je me suis rendu compte qu'il existait sur Internet des formats formidables pour suivre en direct des parties de jeux vidéo et que ça n'existait pas pour la politique, ouais. qui est mon domaine à moi, que je connais, d'où je viens, etc. Et je me suis dit, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je commente la politique sur Internet comme si c'était un jeu vidéo, avec un projet citoyen derrière. Hein. C'est clairement de permettre aux jeunes de se faire leur propre opinion, d'avoir des clés de compréhension, de s'engager s'ils le veulent, etc.
Donc si on se connecte sur la chaîne YouTube d'Acropolis, on peut suivre les questions au gouvernement, mais aussi...
L'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, le Conseil de sécurité des Nations Unies, on fait même des trucs au Québec. On suit l'intégralité de la politique, on en débat surtout, parce que ce qui est très important avec Acropolis, c'est qu'on est un média interactif. Les personnes qui regardent les émissions ne sont pas passives comme devant la télévision, ils sont actifs puisque avec le chat, ils interagissent entre eux et avec nous. Donc ils posent des questions, ils complètent, ils informent, ils débattent, voilà.
Et donc tu as constitué une communauté qui aujourd'hui tourne autour de 50 000 personnes.
À peu près, ouais.
C'est qui ces personnes qui regardent, qui interagissent avec Acropolis?
C'est des gens bien. C'est des gens très bien. Non, la communauté d'Acropolis, c'est essentiellement exclusivement des jeunes de 15 à 35 ans qui veulent suivre la politique pour deux raisons, soit parce qu'ils aiment déjà bien la politique, ils ont une opinion un peu affirmée, ou ils travaillent un peu dans le truc, tu sais, des assistants parlementaires, des journalistes, des gens comme ça, mais ceux-là sont pas majoritaires. Non, les autres, ceux qui sont majoritaires, c'est les jeunes plus jeunes de 15 à 20, 25 ans qui découvrent la politique et qui veulent comprendre comment elle fonctionne. Et donc eux regardent Acropolis parce qu'ils trouvent ce qui n'existe nulle part ailleurs, c'est une politique abordable avec un fond pédagogique qui essaye d'aider les gens à comprendre. Ouais, parce que quand tu y réfléchis, à la télévision, on te propose de regarder les débats parlementaires, mais on te les donne bruts, comme si tout le monde pouvait comprendre de quoi on parle, qui est en train de parler, pourquoi, et pourquoi ils applaudissent, et pourquoi il n'est pas content. Enfin, Et bien nous, on apporte ces informations-là.
Alors ça doit être un boulot énorme, parce que les questions au gouvernement, pour les préparer en amont, pour pouvoir rebondir, expliquer...
C'est un boulot colossal, c'est pas facile à faire, mais on a la chance d'être épaulé. Déjà, on est une équipe ici à Paris à travailler sur ce projet, sur toutes les émissions qu'on propose, mais on a surtout des bénévoles qui, sur Internet, nous aident au quotidien à préparer nos émissions, à les diffuser, à les relayer, à les commenter, etc. Et on va même bientôt sortir des articles écrits qui sont écrits par plusieurs centaines de mains collaborativement pendant les émissions.
D'accord.
pour raconter la politique. Voilà. Ouais. On est en train de préparer plein de trucs.
Et je crois aussi que tu t'intéresses au format podcast.
Mais oui, on veut lancer des podcasts parce qu'il y a pas mal de monde qui regarde Acropolis, mais en fait, qui ne regarde pas vraiment. Ouais. Tu sais, ils ouvrent un onglet sur le côté et puis continuent à bosser. Ouais. Et ces gens-là nous disent, bah ouais, j'aimerais bien, en fait, j'aime beaucoup vos émissions, mais à écouter, elles sont très agréables aussi. Et donc, je voudrais pouvoir écouter Acropolis quand je fais du sport, quand j'essaie de dormir, quand je suis en train de bosser, voilà.
Alors, ou dans les transports en commun. Interactif.
Ah, il n'y aura plus le côté interactif.
En format complémentaire.
Mais pour la rediffusion. Et donc, ça ne se prêtera pas à toutes nos émissions. Il y en a beaucoup qui sont très visuelles. Mais celles qui sont, par exemple, les interviews, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de podcast. Donc, voilà, on est en train d'essayer de préparer des podcasts pour la rentrée.
Super. Très, très bien. Belle perspective. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure, la politique, c'est ton monde. Tu viens de là. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est par tes études ?
Ouais. Non, pas du tout par ma famille, mais à partir du lycée, il m'est arrivé un truc bizarre, c'est que j'ai découvert l'engagement associatif. Mmh. Moi, je viens de l'associatif à l'origine, et donc j'ai milité. J'ai mené des projets dans l'associatif autour de la question de la jeunesse, de la citoyenneté des jeunes, de la prise en compte de la parole des jeunes dans le débat public, etc. Mmh. Donc j'ai roulé ma bosse dans le milieu associatif, comme ça j'ai adoré. Ça a vraiment été ma passion. J'ai fait des études de droit en parallèle.
Comme moi.
Était doué, bah voilà, les juristes les meilleurs. Et j'ai cherché après mes études à avoir un boulot qui alliait le côté engagement que j'aimais beaucoup et le côté pro du droit, etc. Mmh. Donc, je trouvais pas trop. Et en fait, j'ai découvert un métier à force d'être dans des associations. C'est des métiers à l'interface du politique que sont, tu sais, les collaborateurs de cabinet. Ouais. Toutes ces petites mains là qui travaillent dans l'ombre, en fait, ces gens-là, ils sont passionnants, ils sont souvent jeunes, ils comptent pas leurs heures et ils font un travail assez génial parce qu'ils fabriquent de la politique publique au quotidien. Mmh. C'est pas des fonctionnaires, c'est plus des politiques et tout. Et je me suis dit, mais en fait, ce métier est génial, j'ai envie de le faire. Et donc, j'ai fait des études en Master 2, enfin bref, et je suis devenu collaborateur de cabinet. Donc, j'ai bossé en collectivité locale, j'ai bossé à la mairie de Paris, j'ai bossé en Seine-Saint-Denis, etc. Et j'ai même fini par bosser dans un cabinet ministériel qui sont les. J'écrivais les discours de la ministre de la Santé. Mmh. Donc voilà, pendant 4 ans, j'ai fait ces métiers-là au contact direct des politiques.
Oui, c'est ce que j'allais dire, pendant 4 ans, parce que ceux qui nous écoutent vont croire que tu as, je sais pas, 45 piges.
Ah non, j'ai 28 ans, je suis un petit jeune. Mais pendant 4 ans, j'ai roulé ma bosse. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça, parce que je reste quand même un associatif, et moi, la politique, le côté partisan, rapport de force...
Ça me gonfle un peu.
Voilà, en tout cas, c'est pas trop ma soupe. Mmh. Mais du coup, non, ce qui est ma soupe à moi, c'est du coup Acropolis. Ouais. Le projet, le côté associatif. Vas-y, on monte un truc, c'est pour les citoyens, c'est pour les jeunes et tout. Et donc, j'ai créé Acropolis dans la foulée. Avec toute cette expérience, que du coup, je pars pas complètement nulle part. Quand je commente la politique, je la commente parce que je la connais bien. Mmh. Et donc, je peux raconter 2-3 trucs dessus. Mmh. Voilà.
Alors, justement, la politique, aujourd'hui, la politique et la citoyenneté aussi, en 2017. Quels sont les constats ? Comment tu regardes ce monde ?
C'est un monde qui, en ce moment, évolue très vite. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ne serait-ce que 2 ans. Il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, on a quand même des vieux réflexes, on a quand même un vieux pays, des vieilles institutions, etc. Donc c'est un peu particulier comme schéma politique qu'on a, et ça évolue pas toujours dans le bon sens, mais ça évolue aussi dans le sens, dans un bon sens, qui est celui de la prise en compte des citoyens. Mmh. C'est marrant, mais quand tu y réfléchis, en fait, pendant 2 siècles quasiment, la politique a fonctionné en vase clos sans les citoyens. En fait, c'était même quasiment un système de privation des citoyens de leur fonctionnement, parce qu'en gros, on légitimait des gars qui allaient bosser de leur côté, à qui on faisait confiance et on leur confiait notre confiance. Et il y avait un truc très... Et depuis, depuis le début des années 2000, en fait, t'as un truc nouveau qui a fait irruption dans la politique, bah, c'est les citoyens. Ouais. Excusez-moi, j'ai mon mot à dire.
C'est
un truc, mais c'est typiquement Notre-Dame-des-Landes, tu vois. On construit un aéroport, excusez-moi, 2-3 objections, la loi travail, pareil, excusez-moi, je voudrais dire un truc. Et ça, c'est nouveau, en fait. La politique, c'est pas travailler avec ces gens-là. Et le Parlement se retrouve démuni, donc du coup les parlementaires sont en pleine psychose, etc. À quoi je sers, qui je suis, machin. Et les citoyens de leur côté, ils sont tantôt bienveillants avec l'envie d'avancer, et tantôt très sévères envers la politique parce qu'elle ne les prend pas assez en compte, évidemment. Donc on est en plein dans cette transition de phase vers une démocratie de fait plus participative, plus inclusive, plus ouverte. Et on est en train de vivre cette transition-là.
Alors cette transition-là, elle est aussi paradoxale parce que on voit les conseils de développement, qui ont été créés un peu avant le nouveau siècle, Et finalement, on se rend compte dans les collectivités sur le terrain que les gens aussi, les politiques locaux ont du mal à aller trouver des gens pour participer à ces instances. Ouais. Et en même temps, même, tu le disais, il y a plein de choses qui ont émergé, Nuit debout, où les gens sont allés sur les places pour discuter de politique, même si ça n'a pas abouti sur des choses très concrètes. Mais l'envie de discuter, d'échanger, puis là, les espaces de concertation, de co-construction, ils sont...
Ça marche difficilement. Il y a tout un tas de raisons, il y a tout un tas de chercheurs. Ça aussi, c'est nouveau, il y a des gens qui commencent à s'intéresser. Mmh. Pourquoi l'interface se fait pas, en fait, entre des citoyens qui veulent participer et parfois des collectivités qui veulent que les citoyens participent. Mmh. Alors, tu as des trucs qui marchent bien, comme le budget participatif à Paris, par exemple, qui a un relatif succès, donc c'est plutôt cool. Tu avais la co-construction pour la première fois de l'histoire de France de la loi numérique qui a été co-construite avec les citoyens sur Internet. Mmh. Et les citoyens qui ont joué le jeu, qui ont dit bah ok, ils ont déposé des amendements et tout. Donc, donc tu as deux, trois trucs qui fonctionnent. Et puis, à côté de ça, ouais, tu as les conseils de quartier et tout, tu n'as que des vieux, personne n'y va, c'est chiant. Et c'est très paradoxal. Donc, du coup, on continue à chercher des nouvelles méthodes. Et il y a ce qu'on appelle les Civic Tech, dont Acropolis fait partie, qui sont toutes ces initiatives qui essayent d'inventer des applications mobiles, des plateformes web, des nouveaux médias, de nouvelles manières de faire et tout, pour toujours essayer de réussir la quadrature du cercle de la participation des citoyens. Mmh. Et donc, effectivement, on est en train de vivre ce moment où il y a des trucs géniaux qui marchent très bien et d'autres qui ne marchent pas du tout.
Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que les politiques, justement, sont prêts à accueillir le citoyen dans toute sa diversité, ou ils sont encore un peu frileux?
De plus en plus, et ça c'est cool, c'est ce qui rassure. De plus en plus les politiques font le deuil de la représentativité absolue permanente. J'ai été élu, donc légitimé, donc je prends des décisions, et taisez-vous. Ça, c'est un peu passé de mode. On a plutôt une nouvelle génération aujourd'hui d'élus qui essayent de tendre la main et d'être plutôt des passeurs de messages, des passeurs voire même parfois des animateurs de débats publics. Mmh. Et c'est nouveau, ça, pour un élu. Mmh. De non pas prendre des décisions, mais d'animer la concertation. Mmh. C'est un nouveau rôle qu'ils ne sont pas vraiment habitués à prendre. Mais tu as quand même des vieux réflexes à l'ancienne de députés, de sénateurs qui se considèrent légitimés par l'élection, donc seul maître à bord, et le citoyen n'a pas son mot à dire. De toute façon, le citoyen n'y connaît rien. Comme si les députés y connaissaient beaucoup plus que les citoyens, faut pas déconner non plus. Donc les politiques, il y a de la bonne volonté chez beaucoup d'entre eux qui essayent, qui n'y arrivent pas toujours, effectivement, voire même qui ont des déconvenues, ça les énerve. Et de l'autre côté, t'en as qui sont encore un peu réticents.
Oui, et puis en plus, c'est vrai que ces démarches plus inclusives dans la co-construction, c'est aussi des choses qui prennent du temps, qui doivent s'inscrire dans le temps long.
Et mais même pour les citoyens.
Le temps du politique, oui, pour
les citoyens. Les citoyens, pendant très très longtemps, ils étaient cantonnés à un seul rôle, c'est de gueuler quand ils n'étaient pas contents. Voilà. En vrai, c'était ça. Mmh. C'était pétition, c'était manifestation, mais fondamentalement, à part ça, qu'est-ce que tu pouvais faire? Faire la grève. Mmh. Voilà. Les trois modes.
Et puis aujourd'hui, l'abstention qui est peut-être... qui cristallise un temps de cette transition dont tu parles.
Oui, et l'abstention n'est pas à lire comme un désintérêt. Mmh. Pas du tout. Ouais, les abstentionnistes ne se désintéressent pas des choses publiques.
Au contraire,
loin de là.
C'est peut-être...
Pour certains d'entre eux, c'est même encore plus, etc. Mais ils sont plutôt une minorité. Non, la grande majorité des gens qui s'abstiennent juste ne croient plus en la forme de l'élection. Mmh. Mais ils ont quand même leur mot à dire sur l'aéroport, ils ont quand même leur mot à dire sur la loi machin. Mmh. Et ils ont envie de le dire, ils ont envie de qu'on prenne en compte, au contraire, leur voix. Donc c'est hyper intéressant, le phénomène de l'abstention.
Alors si on avance vers 2050...
On est en 2050, dans 33 ans.
Comment tu aimerais... Alors, la question elle peut être multiple, c'est comment tu aimerais voir la citoyenneté, la vie politique, ou comment tu la pressens. Tu peux avoir une vision négative, positive, bref, dans 30 ans.
Ah bah moi, fondamentalement positive, ma vision, mais dans 30 ans, j'imagine... J'imagine une bien meilleure articulation entre les échelons européens, nationaux et locaux, qui ne fait plus débat. Genre c'est bon, on a passé l'âge de...
On a passé l'âge de dire « Oh non, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. »
Ça, c'était dans les années 2017, 2020, 2030, où on s'engueulait encore à l'époque sur « Faut-il que l'Europe s'occupe de ci, de ça, de le niveau local, niveau national, etc. » Ça, c'est un peu passé. Il y a une nouvelle génération qui, maintenant, se pose plus la question. Donc, le niveau européen fonctionne bien, tout en respectant les niveaux locaux et les compétences. Mais tout est assez bien imbriqué. Et rien ne se fait autrement que par la co-construction effectivement permanente. Il existe toujours des parlements au niveau national, au niveau local et au niveau européen, mais qui ne sont plus des parlements comme au siècle passé, qui étaient des espaces de prise de décision. Mmh. En fait, non, ce n'est plus des espaces de prise de décision, c'est des espaces qui viennent enregistrer la concertation qui a été menée pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc. Mmh. Donc j'imagine bien que pendant 6 mois, 1 an, au niveau européen, on s'est intéressé à la question de Faut-il autoriser les voitures volantes à voler aux mêmes altitudes que les avions, que les hélicoptères privés, etc. Donc il y a un vrai enjeu européen sur les transports, que du coup on a harmonisé au niveau européen les espaces aériens d'altitude de vol, des, voilà. Et même les skateboards volants et tout, il faudra se poser la question d'à quelle altitude pour ne pas se gêner les uns les autres. Et donc il y aura une grande concertation au niveau européen où tout le monde aura été entendu, les fabricants, les industriels, mais aussi les associations de pilotes de voitures volantes. Et au niveau européen, on viendra finalement arrêter l'ensemble de la concertation pour se mettre d'accord sur des altitudes de vol pour tout le monde.
Et donc, aujourd'hui, voilà. Tu vois l'émergence des Civitech, enfin hier, mais clair, maintenant, on est en 2050.
Oui, en 2017, il y avait des Civitech.
Donc, en 2050, ces outils-là numériques sont au cœur du dispositif, justement, de co-construction,
de concertation.
Tout le monde a une appli ou...
Oui, complètement. Oui, la citoyenneté est devenue numérique, complètement. Mm-hmm. Avant, tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2017, on avait des bulletins de vote papier, des trucs comme ça. On avait une carte électorale dans son portefeuille, etc. Bon, aujourd'hui, on a tous l'application Europa Citoyenneté, machin, avec notre identifiant unique, où on nous consulte, on nous concerte, on nous donne des informations sur la prochaine réunion, machin. On expérimente des nouveaux modes de vote, etc. Via le numérique. Et oui, dans les années 2017, il y avait un foisonnement de petites initiatives privées, des gens qui galéraient, etc. Aujourd'hui, tout ça s'est passé. Ça, c'était vraiment les prémices de ce qu'est aujourd'hui la démocratie. La démocratie au niveau européen et même au niveau local, elle est fondamentalement participative et fondamentalement numérique. Voilà. Après, on est en 2050, on a aussi réussi, grâce à beaucoup d'investissements publics et beaucoup de volonté politique, à réduire la fracture numérique. Ouais. Parce que dans les années 2017, il y avait encore beaucoup de gens, notamment dans les espaces ruraux, mais même dans les villes, qui, pour faute de moyens ou d'infrastructures, n'avaient pas accès à Internet, etc. Donc aujourd'hui, l'école forme beaucoup mieux les enfants à l'utilisation d'applications, notamment citoyennes. On a tous des smartphones éco-responsables, mais qui ont aussi des applications préinstallées pour la participation citoyenne.
Ouais. Alors comment on a évité le risque que le numérique se mette uniquement au service, on va dire, d'une simplification du propos, parce que la concertation, on aurait pu imaginer des outils, êtes-vous pour tel projet ? Oui, non.
Ah oui.
Tu vois ? Qu'on soit pas dans une approche binaire des questions.
Ouais, alors justement, puis il y avait aussi le problème dans les années 2017, à l'époque on utilisait beaucoup Twitter où tout le monde devait s'exprimer en seulement 140 caractères, ça simplifiait beaucoup trop les problématiques, et c'était le royaume des petites phrases. Non, en 2050, on a réussi à régler ce problème-là en classifiant le niveau d'intérêt qu'ont les citoyens pour ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui peuvent être centrales dans ta vie, et pour lesquels tu ne veux pas qu'on te demande juste t'es pour ou t'es contre. Ouais. Parce que tu veux participer, tu veux donner ton... Voilà. Et donc du coup, on te demande d'abord quel niveau d'implication tu veux avoir sur cette question-là. Est-ce que tu veux laisser les autres en discuter, parce qu'ils ont d'autres choses à dire, ou est-ce qu'au contraire, tu veux aller au maximum, tu veux vraiment t'impliquer au maximum, rentrer dans des associations numériques, enfin des associations, c'était à l'époque, ça maintenant c'est des forums numériques, des associations, des web-associations, où tu partages plein de trucs. Donc voilà. Ouais.
Et avec ce système, justement, donc le citoyen peut définir son niveau d'engagement, comme tu le décris. En 2017, souviens-toi, on parlait de plus en plus des questions de tirage au sort qui existaient par ailleurs. Alors comment justement les choses s'articulent entre le citoyen qui volontairement dit « là je veux plus m'impliquer, là je veux plutôt être en retrait, dire oui, non » et puis le fait de la question de la représentativité ou pas, etc.
Mais justement, on a arrêté de se poser ces questions-là puisqu'on a arrêté de chercher une solution unique pour tout. Ouais. C'est aussi ça qui a changé depuis les années 2017. C'est qu'en 2017, on pensait encore qu'il existe un bon fonctionnement de la démocratie universelle et éternelle. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, en 2050, on a fini par admettre collectivement que y a des sujets sur lesquels on a besoin de prendre du temps, et il y a d'autres sujets sur lesquels on peut aller très vite. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin de se mettre d'accord collectivement, il y a des sujets sur lesquels on peut laisser des gens décider. Par exemple, dans l'armée, l'armée, ça reste un chef, in fine, qui prend des décisions et tout le monde obéit. Mais ça fonctionne bien pour l'armée. Pour l'environnement, par contre, c'est beaucoup plus co-concerté, beaucoup plus co-construit, et il y a besoin de créer des légitimités différentes. Et donc la décision de construire un aéroport, par exemple, n'est pas verticale comme dans l'armée, elle est beaucoup plus horizontale, elle intègre tout le monde, on décide collectivement des indemnisations pour les personnes qui vont être expropriées de leurs terres, etc. etc., etc. Donc voilà, ce qui a changé par rapport à 2017, c'est qu'on a accepté que la démocratie était à visage multiple en fonction des domaines dont on parlait. L'école, pareil, l'école est co-construite aujourd'hui. Entre les enseignants, il n'y a plus de ministère comme dans les années 2017 où tu avais des directives du ministre qui arrivaient dans toutes les classes. Non. Maintenant, chaque école a un niveau de démocratie scolaire, mais qui n'est pas sur tous les sujets non plus. C'est-à-dire que, par exemple, les programmes scolaires sont toujours définis au niveau européen. Mais la décision de savoir si le cours de maths a lieu le lundi, le vendredi, etc., c'est chaque école qui se démerde, qui s'organise en concertation avec les parents, les enseignants, les élèves.
Voilà. Donc une plus grande responsabilisation aussi finalement du citoyen.
Ah, complètement. Qui sent, voilà. Ah, c'est fini l'époque du citoyen dépossédé qui ne peut que glisser un bulletin dans une urne une fois de temps en temps. Non. Maintenant, le citoyen respecte d'autant plus le fonctionnement collectif qu'il a été impliqué dans sa décision, etc. Et ça a aussi fait baisser la délinquance, comme on l'a vu. Puisque, mais bien sûr, ouais, ça a aussi fait baisser la délinquance, puisqu'en fait, on est tous collectivement responsables de notre quartier.
Voilà, et on est dépositaire des biens communs qui finalement, la res publica est devenue bien commun. Et
absolument, complètement. Les biens communs, c'est devenu un truc complètement rentré dans le. Et tout le monde en prend soin à tour de rôle. Donc voilà, on fait des patrouilles collectives dans les quartiers pour vérifier que tout se passe bien. Et puis la semaine prochaine, ce ne sera pas moi qui ferai patrouille, ce sera mon pote. Et ça tourne. Et voilà.
Ouais, alors, patrouille pour voir si tout se passe bien ou patrouille pour cultiver le jardin partagé du quartier.
Oui, voilà.
C'est vrai que le petit patrouille.
Patrouille, c'est parce que je pensais à la sécurité, mais t'as raison, parce qu'au cœur, entre les immeubles, il y a chaque immeuble a son jardin partagé qui est géré en plus dans l'intergénérationnel entre les enfants de l'école d'à côté et les maisons de retraite.
C'est magnifique. Ah, ça, c'est trop bien. Tu nous prépares.
Mais tu vois, je suis très, 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 très optimiste, moi, pour 2050, ça va être bien.
Et alors, une question que je me pose, l'avènement d'une démocratie qui se construit sur tous les sujets avec les citoyens quasiment en temps réel. Est-ce que ça signe la fin des idéologies politiques, des visions tranchées comme qu'on a connues depuis des centaines d'années, la droite, la gauche
On les a vus évoluer. La droite et la gauche, c'était l'époque où tout le paradigme politique devait s'inscrire dans un régime parlementaire. Donc on s'assoit à droite ou à gauche en fonction de son opinion. Ça avait du sens à cette époque-là. Aujourd'hui, en 2050, c'est pas la fin des idéologies, loin de là, mais c'est leur évolution. C'est l'évolution des idéologies pour prendre en compte la réalité des choses. Et c'est vrai qu'on n'a plus, aujourd'hui en 2050, d'idéologies qui essayent, comme on pouvait avoir au XXe siècle avec le communisme, d'avoir une lecture universelle et éternelle du monde. Ça aussi, ça a évolué. Toutes les idéologies se sont adaptées à un monde en temps réel, à un monde en mouvement. Voilà, ça n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là, puisqu'il reste par exemple des inégalités sociales, il reste des injustices, il reste des enjeux colossaux, l'environnement reste un enjeu colossal, etc. Donc on continue à avoir besoin d'idéaux et de gens qui partagent ces idéaux, mais on en discute. On en discute, on en parle, et ça se règle et ça avance comme ça.
Donc si on se souvient de 2017, des questionnements de ceux qui pouvaient se prévaloir d'être de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, finalement, ça faisait partie de cette transition vers une nouvelle pratique de la
politique. À l'époque, en 2017, on était au milieu de ça. On était au milieu de cette... Il y avait encore des gens en 2017 qui étaient très attachés aux grandes idéologies structurantes du XXe siècle. L'idée qu'il existe une gauche éternelle qui se battra toujours pour la justice sociale et une droite pour la liberté, etc., individuelle. Voilà, on en est un peu revenu depuis parce qu'effectivement, on a compris que l'enjeu n'est pas tant d'avoir une lecture universelle sur tous les sujets, mais qu'on peut être de gauche sur l'environnement et de droite sur les cotisations sociales.
Et le monde des entreprises, le monde, mon ennemi, c'est la finance.
Ouais.
Alors, je caricature. Enfin,
les entreprises aussi ont beaucoup changé parce que du coup, cet esprit collaboratif et citoyen et démocrate a aussi infusé le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, en 2050, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de grandes sociétés comme on en avait en 2017, dirigées par des actionnaires, etc. Ouais. Non, aujourd'hui, on a vu émerger de plus en plus des sociétés coopératives, collaboratives, associatives. Des systèmes comme ça assez imbriqués, assez intelligents et agiles. Voilà, aujourd'hui, en 2050, deux entreprises sur trois qui se créent sont des coopératives.
Waouh. Vive l'économie sociale et solidaire.
Ouais, c'est ça. Bah, y a une époque, je me souviens, où l'économie sociale et solidaire, en 2017 par exemple, on en parlait comme d'une branche de l'économie.
Voilà,
aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Toute économie ne saurait être qu'autre chose que sociale et solidaire. Il n'y a que de social et solidaire dans l'économie. Donc voilà, donc de plus en plus, et puis voilà, pareil, à l'époque il y avait des écoles de commerce où on apprenait qu'une forme, etc. Aujourd'hui ça finit, toute cette histoire-là, c'est beaucoup plus imbriqué avec l'université, et les jeunes qui sortent des écoles de management, etc., créent beaucoup plus facilement une coopérative qu'une société anonyme ou un truc comme ça.
D'accord. Alors, dernière petite question, tu as un hand spinner dans les mains.
C'était à la mode en 2017.
Voilà, c'était à la mode en 2017. C'est quoi, et donc tu as gardé ça, c'est le truc qui te détend, en 2050 encore.
Même en 2050, ça me rappelle ma folle jeunesse quand j'étais jeune en 2017 et que je montais un projet un peu chronophage et difficile,
un projet de dingue.
ça me déstressait. Et ça énervait les gens quand ils le voyaient. Donc voilà, j'ai gardé ce souvenir-là. Et peut-être que. Bah, tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils 50, ils comprennent pas. Ils me voient ça, ils me prennent pour un extraterrestre. Ils ont la version mobile. Mais, mais moi, je reste attaché à ma version de 2017, Beyond Spinner.
Pour finir, Jean, j'aimerais que tu formules un vœu pour dans 33 ans, nous voilà de retour en 2017. Ou peut-être que nous sommes encore en 2050 et un vœu pour...
Un vœu pour dans 33 ans. Non, un vœu pour dans 33 ans aujourd'hui. Mmh. C'est que se souviennent comme d'un mauvais souvenir de l'époque où les femmes n'étaient pas aussi représentées. Ah, dans tout, mais partout en fait. Mmh. Voilà.
Super.
Que dans 33 ans, mes petits-enfants me diront « Papy, c'est vrai que... » Non, peut-être pas papy. Papa, ouais.
Oui, putain.
Mes enfants me disent « C'est vrai que quand t'étais jeune, il n'y avait que 40% de femmes à l'Assemblée. Mmh. » C'est dingue, c'est vrai. Et dans les syndicats, les associations, partout, tu sais.
Ouais, ouais.
Et qu'eux, ils trouvent ça mais complètement délirant. Complètement délirant.
Ah,
mais comment c'est possible?
Ouais.
Mais c'est fou, mais c'est bizarre. Et du coup, il n'y avait que des mecs. Mais dans les réunions, il n'y avait que des garçons et tout. Mais c'est hyper bizarre. Voilà, ça c'est mon vœu pour dans 33 ans. Et les enfants me regardent avec des grands yeux en disant « Comment vous avez pu vivre à cette époque-là, bande de dégénérés ?»
Ah, génial. Ben, je l'adore, ce vœu.
Bah écoute, tant mieux.
Je le sens, vous êtes déjà accro ou en passe de le devenir. Alors dites-le moi avec des commentaires et des étoiles sur iTunes, c'est hyper important. Et puis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à envoyer des faves, des likes, des cœurs, bref, partagez, qu'on soit de plus en plus nombreux à entrer dans cette communauté du futur. Et puis je vous rassure, pas de panique, pas de manque possible. Je reviens dès la semaine prochaine avec une nouvelle dose de futur, un nouvel invité. Et d'ici là, soyons toujours curieux.